France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
La période estivale est propice au réinvestissement et au questionnement de l'espace public en ville ou ailleurs, les façons multiples dont on peut se réapproprier le patrimoine commun, l'imaginaire urbain à la faveur des beaux jours sont autant de pistes pour tenter de faire évoluer les pratiques et les représentations surtout de cet espace urbain ou de cet espace public. Le voyage à Nantes en est une belle illustration chaque été depuis 2012 et c'est une des œuvres installées cette année à Nantes qui va nous fournir l'occasion d'une discussion sur le sujet. Bonjour Eva Jospin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Plasticienne, bien connue pour vos œuvres souvent monumentales, liées à la nature, au végétal, à la fibre, au bois. Vous présentez Le Passage dans le cadre du Voyage à Nantes cette année, une œuvre qui sera d'ailleurs destinée à rester, à être pérennisée. À vos côtés, pour mener cette discussion, Pascal Lebrun-Cordier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable et créateur du Master Projet Culturel dans l'Espace Public à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, également directeur artistique de la zone d'activité temporaire, artistique,
oui,
temporaire à Montpellier.
Je l'ai été pendant 5 ans, et j'ai créé cette manifestation, mais je ne le suis plus aujourd'hui.
Vous êtes tout de même le bienvenu.
Merci.
Pascal Lebrun-Cordier. Eva Jospin, parlons du passage très monumental installé le long de la fameuse ligne verte que les spectateurs du Voyage à Nantes sont invités chaque été à suivre, installé dans une vénèle sur l'île de Nantes, entre la rue de la Tour de Vergne et la rue Pierre Landais. Cette œuvre, on est là dans une réflexion sur la nature en architecture.
Oui, entre autres, en fait, j'ai commencé ce travail, il n'y avait rien du tout, puisque c'était tout un îlot en construction. Donc le passage, au départ, c'était un espace entre deux rues, sans immeuble. Enfin, je suis arrivée même avant le chantier de construction. L'immeuble a été construit par Brigitte Métra. Et voilà, et donc en fait, le travail que j'ai voulu faire, c'était de réintégrer une nature un petit peu sauvage qui reprend ses droits, mais en même temps assez fragile, parce que c'est vrai que c'est tout un travail avec des cordages, et en fait, il y a eu des nœuds de matelotage, donc ça tient extrêmement bien, puisque j'ai fait tout un cours de matelotage pour réaliser cette œuvre. Exactement, j'en ai fait des centaines et des centaines, donc maintenant, ça y est, j'ai quelques nœuds que je maîtrise sur les milliers de nœuds possibles. Et donc, en fait, il y a un aspect comme ça un peu fragile quand on regarde l'œuvre qui, en réalité, ne l'est pas. Et l'idée, oui, en effet, c'était d'avoir une espèce de sensation de prolifération de nature au milieu d'un espace très minéral, parce que les constructions qui ont été faites, c'est un bâtiment mixte entre logement social, accession, commerce, il y a un foyer étudiant. Donc c'est une réalisation qui est avec un budget relativement faible. Enfin, c'est un coût pour l'accession à la propriété qui est pas trop élevé, justement, pour pouvoir permettre ce type d'accession. Donc du coup, ça fait un projet très minéral, justement. Et l'idée, c'était un peu de casser tout ça.
Mais alors, vous avez fait œuvre d'architecte, finalement, en arrivant avant même la construction des bâtiments, entre lesquels est installée cette treille monumentale. 22 mètres de long, 10 de large.
Oui, c'est ça. Aéré, donc ça prolifère, ça s'étale, mais c'est pas imposant. Et j'ai pas fait œuvre d'architecte. Par contre, j'ai beaucoup discuté avec l'architecte. Et surtout, j'ai essayé de réfléchir à quel endroit je pouvais m'installer, parce que ce passage, en fait, il peut être traversé pour accéder à une nouvelle rue. Donc, c'est tout un quartier qui se reconfigure. Et du coup, on n'a pas encore complètement, avant même de faire tout ce travail, on n'avait pas forcément eu d'idée de l'usage qu'il y aurait. Donc, c'est aussi intéressant, parce que c'est vrai que l'art dans l'espace public, c'est aussi lié à un usage. Et là, l'usage, on ne pouvait pas le deviner avant. Puisque en fait, il y a une nouvelle rue, donc il y a des nouveaux passages, et on ne sait pas encore quelles vont être les habitudes des habitants, est-ce qu'ils passeront par là ou pas. En tout cas, voilà. Donc j'ai travaillé avec l'architecte dès le début, et il y avait deux entrées dans lesquelles j'ai pas voulu m'installer, parce que c'était vraiment des entrées avec des portes, des ascenseurs, un va-et-vient, les gens mettent leur vélo. Enfin, c'était pas l'endroit où mettre une œuvre, et donc je me suis installée un peu dans le ciel, finalement, puisque c'est comme une espèce de treille de jardin imaginaire, et donc ça recouvre, c'est à 3 mètres de haut à peu près, et donc on passe en dessous, mais on voit le ciel, et c'est très aéré, Et donc ça vient se poser plus que s'imposer, enfin j'espère.
Et l'usage de ces bâtiments, de ce passage, de cette Venelle va donc se faire un peu en fonction aussi de votre œuvre et de votre travail. Bah, c'est là où c'est intéressant.
Il faut espérer que les gens ne fassent pas un détour pour l'éviter.
C'est tout ce qu'on
mais
vous
souhaite. Mais plutôt pour l'avoir, on verra.
Matériaux modestes, vous parliez d'une certaine fragilité, ce sont des cordes en polypropylène, il y a du laiton, il y a du cuivre, de la chaux. Matériaux modestes, mais quand même destiné à rester. Il y a
oui, c'est vrai que j'avais envie de travailler avec de la corde en chanvre et à chaque fois qu'on s'attaque à un projet dans l'espace public et qui est destiné à rester, puisque là, pour le coup, c'est une œuvre pérenne. Alors, il faut savoir qu'une œuvre pérenne, je le dis parce qu'on ne le sait pas forcément, c'est une obligation de 10 ans. C'est ça le contrat. Après, évidemment,
vous n'êtes plus responsable. Vous avez la garantie décennale,
mais
pas plus.
Je veux dire qu'une œuvre dans l'espace public, elle va rester, mais il y a une obligation de 10 ans. Après, on peut toujours repenser la présence d'une œuvre. Donc, c'est important de le savoir, parce qu'il pourrait aussi y avoir des lois très contraignantes qui font qu'après, il y a la propriété intellectuelle, on ne peut plus rien déplacer. Enfin, je pense que.
On en parlera effectivement.
On connaît un peu mieux ce genre de sujet. Mais voilà, et donc, du coup, je ne sais plus du tout quelle était votre question.
Je vais continuer. Une œuvre qui donne envie de se perdre,
oui, voilà.
Des ramifications
donc,
qui sont...
Ah voilà, la question des
vous
matériaux.
Disiez une sorte de treille. C'est pas vraiment une treille, du coup, c'est quelque
non,
chose
que, en fait,
entre figuration et illusion.
Une treille dans la nature, on ne sait pas exactement ce que c'est. Au fond, c'est-à-dire c'est une armature sur laquelle on va faire pousser... ça peut être des rosiers, une vigne, pour créer de l'ombre, pour finalement maîtriser le végétal et cette envie comme ça de verdure, d'ombre, de repos, mais qu'on cherche à maîtriser. Donc c'est quand même un peu l'œuvre du jardinier, on va dire, plutôt que l'œuvre de la nature. Et donc c'était ça l'idée de la treille. Après c'est pas un mot très poétique, mais en tout cas ces espaces comme ça un petit peu maîtrisés dans le jardin. On les a en tête, on se les imagine, et donc c'était un petit peu ce que je voulais recréer, c'est-à-dire à la fois la nature, mais en même temps cette contrainte du jardinier, de la main de l'homme qui tord en même temps, qui donne, qui délimite.
On fait semblant de laisser libre cours à la nature, mais on la met dans
mais
un cadre.
Mais on la maîtrise.
Et voilà, c'est ce que vous faites avec cette treille.
C'est exactement
cette sorte
ça. Et puis pour revenir, parce que ça y est, maintenant je me souviens de votre question. C'était sur les matériaux. Et donc, quand on installe une œuvre dans l'espace public, il faut quand même se poser la question de la pérennité, de comment ça va vieillir. Donc, j'aurais voulu utiliser du chanvre, ouais. Mais il se trouve que ça pourrit. Ça pourrit entre 8-10 ans. Ce qui, la marine, c'est pas très grave, on remplace, mais pour une œuvre pérenne, c'est un petit peu plus problématique. Donc, j'étais obligée d'utiliser d'autres matériaux qui vont vieillir aussi, mais qui peuvent aller au-delà.
Fidèle à vos autres œuvres, on peut citer Panorama dans la cour carrée du Louvre en 2016, on peut citer d'autres moments d'exposition. Vous créez un certain mystère avec cette illusion de nature. On a presque envie de se perdre dans ces ramifications. Qu'est-ce que vous voulez conjurer ? Quelques peurs enfantines ?
Non, je sais pas si je cherche à conjurer. Moi, je cherche plutôt à inviter. Alors évidemment, la peur, c'est aussi un plaisir. Hein. On voit que on parlait du roi du polar italien. Donc, on aime se faire peur aussi ou jouer. Ça peut être quelque chose qui procure du plaisir. Mais non, je dirais que moi, j'ai envie d'entraîner les gens dans une idée de voyage, de déplacement. De créer, en fait, idéalement, j'aimerais créer un peu des œuvres lieux, des œuvres qu'on peut habiter. Donc, c'est le cas, par exemple, du passage qui est à Paris, au 14
boulevard
Raspail, dans le 7e, qui s'appelle Beau Passage. Mais là, c'est pour les œuvres pérennes, mais l'œuvre au Louvre, c'était une œuvre temporaire, mais dans laquelle on rentrait, dans laquelle on pouvait se perdre, s'immerger.
Ouais, il y a une idée quand même de transition aussi.
Oui,
de...
c'est vrai. Et c'est vrai que c'est un petit peu ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire, un peu un voyage immobile qui fait que les gens si possible, si ça fonctionne, sont un petit peu happés à l'intérieur et ensuite se créent leur propre récit dans l'œuvre, puisque comme ce sont des sujets qui au fond font appel au conte, au mythe, à l'enfance, mais aussi à tous les mythes de naissance, aux architectures primitives, etc. Il y a énormément d'images qu'on peut convoquer dans ses œuvres et j'espère que les gens qui y sont sensibles se créent leur propre histoire.
Pascal Lebrun-Cordier, qui est donc responsable du master projet culturel dans l'espace public, vous n'êtes pas là pour nous parler de la garantie décennale des œuvres dans l'espace public. C'est toujours très particulier de travailler justement dans l'espace public, c'est ce que vient de formuler Eva Jospin. Les artistes sont maintenant habitués à ce genre de contraintes, qui sont des contraintes supplémentaires qui peuvent amener, comme toutes les contraintes en matière artistique, énormément de richesses, énormément d'opportunités aussi.
Oui, ce sont d'abord des opportunités, hein, des matières à création finalement. Travailler dans l'espace public, c'est être confronté à toute une série de singularités, d'obstacles, de particularités, puisque l'espace public n'est pas fait pour accueillir des projets artistiques. Et du coup, c'est tout de suite une négociation. Et c'est ce qui est passionnant finalement dans la création en espace public, c'est qu'on négocie avec des gens, avec des propriétaires, avec des architectes des bâtiments de France, avec le vent, avec la pluie, avec les flux de piétons. Et donc c'est une aventure très excitante, très exaltante, et beaucoup d'artistes prennent appui précisément sur le contexte, hein, c'est ce qu'on appelle l'art contextuel finalement, pour imaginer des œuvres qui se nourrissent véritablement des singularités du lieu, hein, la création in situ, créée pour un lieu et spécifiquement pour un lieu, la création contextuelle, elle se régale finalement de toutes ces difficultés, elle en fait, je dirais, le terreau de la création. C'est-à-dire que l'espace public, c'est pas seulement un terrain de jeu pour les artistes, ça peut être la matière, le terreau vraiment de la création artistique. Et c'est ce que je trouve souvent absolument passionnant.
Il n'y a pas une nuance qu'on peut introduire entre art contextuel et œuvre in situ ?
Pour moi, c'est à peu près la même idée quand même. Hein. C'est-à-dire que l'art contextuel va se nourrir du contexte. Et puis l'art in situ, c'est aussi ça. Il est fait pour un lieu et pas pour un autre. Et schématiquement, on peut considérer qu'il y a deux types d'art dans l'espace public. Hein. Il y a des œuvres qui sont posées dans la ville sans forcément beaucoup jouer avec le contexte. C'est d'ailleurs historiquement ce qu'on a beaucoup vu jusqu'aux années 60-70. Encore aujourd'hui, ça arrive. Hein. On pose des objets, on pose des œuvres et le dialogue est assez limité, on va dire, avec le contexte. Et puis encore une fois, d'autres œuvres qui vont au contraire jouer le jeu véritablement de l'espace, du paysage, de l'histoire, de l'actualité, des flux et qui vont se nourrir véritablement, en faire la matière même de la création.
On va écouter Georges Rousse, photographe et plasticien, qui revient sur ce qui fait l'essence, selon lui, de son travail artistique. Le fait, effectivement, de s'emparer un lieu, souvent à l'abandon, pour mieux le magnifier. C'était à l'occasion d'une exposition à Clermont-Ferrand.
Je travaille toujours, ou pratiquement toujours, dans des lieux abandonnés qui vont être démolis. Et plutôt que de prendre une image qui mémorise ce lieu avant la démolition, une image photographique, simple, j'ai décidé à un moment donné d'intervenir sur le champ, dans le champ photographique que je vais photographier. J'aime cette possibilité de revenir souvent et de faire finalement une collection d'images sur une ville, sur un lieu ou plusieurs lieux dans cette ville, et créer finalement une sorte de mémoire parallèle qui est liée complètement à mon travail.
Georges Rousse qui s'exprimait donc à l'occasion d'une démolition. Vous, Eva Jospin, vous nous parliez de construction tout à l'heure pour l'installation du passage. Vous vous reconnaissez dans ce qui vient d'être dit ?
Je me reconnais parce que c'est vrai que nous, on travaille dans des lieux qui sont, on fait des œuvres qui ne restent pas aussi, des œuvres temporaires. Et on travaille aussi dans des lieux qui vont être détruits. Par exemple, l'œuvre que j'ai faite, Boulevard Raspail, je l'ai réalisée dans un lieu qui depuis, a été détruit. Donc, on se retrouve souvent dans les interstices, ce qui est très intéressant parce que ça ouvre le champ des possibles. Ça a aussi une limite, et je pense que Pascal sera d'accord avec moi. Le risque, c'est aussi de demander aux artistes de rendre beau l'abîmé, de suturer ou de colmater des brèches à des endroits où personne ne trouve de solution. C'est pas du tout le cas de Georges Rousse, hein, évidemment, puisque lui, c'est une démarche longue, permanente et engagée dans son travail.
Mais il y a un risque.
Mais c'est un risque qu'il faut avoir en tête, parce que c'est vrai que quand les usines ferment, quand les quartiers deviennent un peu abandonnés, etc., on se dit, ah tiens, un centre d'art. Bon. C'est bien, c'est mieux que rien, mais ça a une limite, je ne sais pas ce que pense Pascal. Mais...
Demandons-lui, pourquoi pas, Pascal Lebrun-Cordier.
Non, d'abord je pense que les artistes peuvent révéler aussi la beauté des ruines précisément,
oui,
la dégradation. Spontanément je pense à Vils, le street artiste portugais, hein, qui, vous savez, avec des explosifs, avec toute une série de techniques, creuse finalement les murs un peu lépreux et fait apparaître des visages précaires, fragiles, fantomatiques, dans des murs qui sont, encore une fois, souvent abandonnés depuis longtemps. Après, je trouve passionnant, moi aussi, d'installer des projets artistiques sur tous les territoires et en périphérie aussi. C'est-à-dire qu'on a quand même une habitude de concentrer les lieux culturels dans les centres, dans une logique de valorisation. Donc, au contraire, moi, je trouve plutôt passionnant d'aller jouer sur tous les terrains.
Non, mais moi, je trouve ça passionnant, absolument. Je veux dire que c'est au niveau des politiques culturelles, parfois, qu'il ne faut pas que ce soit un peu le cache-misère.
Un peu facile
voilà,
aussi.
C'est ça que je veux dire. Mais et l'autre problème aussi, c'est que je pense que les artistes ont besoin d'être soutenus longtemps. Et du coup, parfois, si on leur propose que des espaces, pour certains artistes qui sont en train de monter leur travail, ils ont besoin de pouvoir agir, pas une fois, mais à plein d'endroits. La carrière d'un artiste, ça se fait pas sur 3-4 ans, un projet. Ça doit s'accompagner sur de nombreux projets et de nombreuses années.
Vous le ressentez, ça, quand même, Pascal Lebrun-Cordier, ce risque-là dont parlait Eva Jospin, d'avoir, à un moment donné, un artiste transformé en agent de municipalité ou de communauté de communes ou de métropole. C'est vrai qu'il y a ce risque-là. On a besoin de faire un peu de communication, on a besoin de faire monter un peu les statistiques touristiques, on appelle un artiste.
Pascal Lebrun-Cordier. Alors, à partir du moment où le directeur, la directrice artistique laisse véritablement carte blanche, à partir du moment où les offres sont fortes, moi je trouve ça intéressant. On peut conjuguer des objectifs de développement touristique ou de développement territorial et en même temps avoir une ligne artistique forte qui permet, comme vous l'avez dit, à des artistes de déployer leur univers, de construire des œuvres dans la durée. Je pense qu'on peut articuler. On a longtemps opposé ces deux objectifs, un objectif de valorisation touristique, patrimoniale et un objectif artistique. Et moi je trouve que le voyage à Nantes, par exemple, est un bon exemple de conjugaison de ces objectifs. Donc j'aurais plus tendance à voir les choses de manière optimiste et à considérer que une programmation contextuelle dans l'espace public, elle offre un terrain de jeu pour les artistes, un espace de découverte et d'exploration pour les amateurs d'art, mais aussi pour des gens qui n'ont pas forcément un regard, une culture ou un intérêt marqué pour la création artistique, une invitation à voir la ville autrement.
C'est ça. Il n'y en aura jamais trop, c'est ce que vous nous dites, Pascal Lebrun-Cordier.
J'ai tendance à penser ça, oui. Il y a un mouvement, il y a un intérêt fort, il y a beaucoup de villes qui jouent cette carte aujourd'hui, mais je vois aussi les choses de façon assez positive. On a des occasions de rencontrer la création, la poésie, de rencontrer des objets énigmatiques, des objets qui créent des courts-circuits poétiques, qui nous emmènent ailleurs, qui nous amènent à voir le paysage autrement. On écoutait Georges Rousse, on peut penser aussi dans la même famille à Felice Varini. Et des artistes qui subitement nous permettent de voir et de vivre la ville autrement, d'être attentif à des perspectives, d'être attentif à des singularités de l'architecture, à des configurations spatiales, de révéler aussi l'histoire. Et je crois que l'espace public, les espaces publics, les paysages aussi, ce sont des territoires d'aventure artistique immense, et donc on a encore beaucoup de choses à faire. Et je plaide au contraire pour qu'on en fasse encore plus.
Ah non, mais je sais pas. C'était pas évidemment mon propos de dire qu'il fallait pas en faire plus. Il faut toujours en faire plus. Et puis après, ça dépend aussi de qui pense ces projets.
Il faut un bon directeur artistique. C'est ce que vous avez dit aussi entre les lignes, Pascal Lebrun-Cordier.
Je défends ce rôle, oui.
Ouais. Il est un temps pas si lointain où l'art dans la rue, c'était surtout une fonction contestataire qu'il avait. Aujourd'hui, ça c'est du coup complètement éclaté.
C'est un vrai sujet, oui, parce qu'effectivement, quand même, ces manifestations qu'on évoque là, elles sont là pour glorifier les villes, hein, pour créer une attractivité. Donc, il est difficile de conserver un espace pour une création critique dans ces contextes. C'est vrai, ça, on peut le souligner, bien sûr. Après, il reste encore des artistes qui, de toute façon, de manière complètement sauvage, sans être dans la commande, interviennent, perturbent, créent, encore une fois, des interpellations dans l'espace public, d'une part, et puis d'autre part, même dans ces programmations artistiques, on peut encore citer le voyage à Nantes, il y a des espaces pour des œuvres qui crée du débat, de la polémique. Jean Blaise y est attentif et je trouve ça assez réjouissant, même si elles sont peu nombreuses, elles existent.
Et Eva Jospin ?
Non, mais je dirais qu'en fait, l'art a été, c'est vrai, ça a été l'art dans l'espace public. On pense à tous les sorts du graffiti, etc., mais d'autres choses aussi. Mais avant ça, l'art dans l'espace public a toujours été extrêmement présent. Finalement, il y a eu un moment qui s'arrête. Parce que il peut plus y avoir de commanditaires qui demandent leur portrait ou une statue équestre ou bien une allégorie de la République ou un monument aux morts. Je veux dire qu'en fait l'art dans l'espace public on le redécouvre, mais c'est une constante de la ville puisque la ville est un monde créé, c'est un monde dessiné et l'art a toujours eu une présence extrêmement forte, absolument dans toutes les constructions, dans toutes les villes humaines. On a d'ailleurs, avant l'école des Beaux-Arts, c'était peinture, sculpture, architecture. Ça s'est séparé à un autre moment. Et aujourd'hui, les œuvres reviennent dans l'espace public de façon très différente. Notamment aussi, les promoteurs immobiliers ont créé une charte avec le ministère de la Culture qui s'appelle « Un immeuble, une œuvre ». Il y a le 1% artistique.
C'est l'équivalent du 1%, voilà.
C'est l'équivalent du 1%. Il y a une grande attention en ce moment sur tous ces sujets. Mais je pense que, en général, c'est très important parce que il y a l'espace du musée. On a compris maintenant qu'il y a une grande liberté dans les musées. Les artistes peuvent s'exprimer dans les musées. Mais ça reste quand même des lieux, j'ai envie de dire, évidemment culturels, mais aussi scientifiques. C'est-à-dire que dans un musée, il y a aussi des commissaires qui accompagnent, qui choisissent des périodes, qui choisissent des artistes. On ne pourra pas tout faire rentrer dans le musée. On peut faire rentrer beaucoup plus de choses dans la ville, parce qu'elle est vaste. Et je pense que beaucoup d'artistes sont... en fait, vont se faire oublier quelque part et on ne saura plus forcément qui a fait quoi, mais ce sera un plaisir, un parcours de les trouver sur notre chemin dans quelques années.
Le long d'une ligne verte.
Exactement.
Ou pas. Merci beaucoup Eva Jospin et Pascal Lebrun-Cordier d'être venus dans les matins d'été de France Culture aujourd'hui à l'occasion de la présentation à Nantes du passage. C'est dans le cadre du voyage à Nantes jusqu'au 1er septembre, mais votre œuvre donc va rester sur l'île de Nantes. Eva Jospin, je précise également que vous exposez en ce moment à la galerie Suzanne Taraziev, rue Pastourelle, dans le 3e arrondissement de Paris. C'est jusqu'au 26 juillet.